du banc. Le podcast pour comprendre le jeu vous est présenté par PMU.fr.
Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 49e épisode de la saison 6 de Vue du banc. Un épisode qui reviendra sur la première demi-finale de Ligue des Champions, la victoire nette du PSG 3-0 face à Leipzig. Pour cet épisode, enregistré à chaud à 23h37 en ce 18 août 2020, mes deux compères tauliers habituels, Florent Tonuti, de Chronique Tactique, de Djibouti et de beaucoup d'autres choses, même de Culture PSG, puisque Culture PSG a repris certains de tes tweets pour les mettre en forme et en faire un article sur la présentation tactique du match. Salut Florent.
Salut Christophe.
Et Raphaël Cosmidis, de beaucoup de choses, du Red Star, le magnifique coaching des U13, mais également de l'équipe, parce que tu as même un article dans l'équipe de demain, l'équipe du jour, pour ceux qui entendront ce podcast dans quelques heures après l'enregistrement, où tu parles des forces du Bayern, il me semble, Raphaël. Salut Raphaël.
Oui, salut Christophe, salut Florent. Oui, des forces et surtout de l'animation offensive du Bayern, qu'on avait vu en verve contre le Barça, mais aussi depuis le début de la compétition, parce qu'ils ont mis des tôles un peu à tout le monde. Voilà, c'est dans je crois que c'est dans le journal du 19 août. Ce sera aussi normalement sur le web pour ceux qui ont un compte abonné à l'équipe. Donc voilà, si vous cherchez une petite lecture, c'est pas un très long article, mais c'est mon premier depuis quelques temps puisqu'il y avait eu un long confinement et une petite pause. Donc voilà, je fais mon retour dans les pages de l'équipe.
Magnifique. Et là, ce sera pas un retour, mais une première. Paris en finale de Ligue des Champions. Déjà, à chaud avant qu'on rentre dans le détail. Raphaël, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Je t'avoue que moi, j'ai pas été passionné par le scénario, c'était un peu ce que je craignais sur l'écart de niveau. Est-ce que tu as été comme moi ou tu as quand même réussi à t'emballer devant quand même une prestation parisienne très aboutie?
C'est vrai que depuis le début des quarts de finale, en tout cas, si on accepte un peu les huitièmes de finale retour où le Bayern avait à nouveau dominé Chelsea, je pense que ça a été le match le plus vite plié, ou en tout cas la physionomie la plus à sens unique. Le Bayern-Barça, il y avait un écart énorme, mais il y avait eu quand même en début de match la gestion de la profondeur un peu déficiente du Bayern qui avait donné des opportunités au Barça. Et derrière cet enchaînement de buts, d'actions qui en avait fait un match un peu historique, là ça a été un match un peu plus classique où on a senti très vite que le PSG était supérieur, que Leipzig n'arrivait pas, quelle que soit la phase de jeu, à embêter le Paris Saint-Germain de façon régulière et répétée. Et ça a du coup amené un match beaucoup plus classique que ce qu'on avait vu sur les derniers tours. On se dit que depuis le début, ces matchs qui jouent que sur 90 minutes, ça a tendance à permettre aux plus petites équipes finalement de s'en sortir parce que l'échantillon est plus court. Donc si tu veux surprendre l'équipe réputée plus forte, c'est plus facile de le faire sur 90 que sur 180. Là, pour le coup, dès les 20 premières minutes, l'écart a été assez énorme. Alors collectivement, oui, individuellement encore plus. Et du coup, c'est vrai que ça a été le match où on a le plus vite, je pense, décroché, surtout toi, Christophe. J'ai regardé jusqu'au bout en tout cas, mais bon voilà, c'était déjà un miracle qu'il y ait 1-0 seulement vers la 37-38e, et je me disais, c'est tant mieux si Leipzig rentre à la mi-temps avec ce score, parce que ça permettra à Nagelsmann de corriger plusieurs choses et peut-être de redonner un sens à la deuxième période. Bon, il y a ce deuxième but qui intervient, et puis derrière, en deuxième mi-temps, les transitions du PSG qui finissent Leipzig, donc c'est vrai que ça a été un scénario beaucoup moins passionnant que les matchs précédents qu'on avait fait. Voilà, ça fait trois, quatre soirs qu'on vivait des matchs fous. Là, c'est le plus tranquille.
La fiche technique. Donc, victoire 3-0. Premier but de Marquinhos au bout de 13 minutes. 2-0, Di Maria, 42e. 3-0, Bernat à la 56e. Les deux équipes. Côté parisien, Rico dans les buts. Une défense avec Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat. Milieu de terrain, Herrera, Marquinhos et Paredes, qui étaient titulaires pour ce match. Et devant du classique, enfin en tout cas peut-être les trois meilleurs joueurs de cette équipe sur le plan offensif, c'est sûr, Di Maria, Neymar et Mbappé. De l'autre côté, dans les buts, Goulachi, voilà, joueur qui a vécu une soirée assez compliquée. Derrière, il y a Mukiele, Upamecano, Klosterman, Angelino, Campbell en 6, là aussi c'était compliqué. Leimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku et enfin Poulsen devant. Joueur qui, je pense, a peut-être atteint son pic également. On avait parlé dans le dernier podcast consacré à Leipzig. Lui, il est là depuis le début de l'aventure en Détroit, il me semble. C'est bien d'être allé jusque-là. Je ne sais pas s'il aura à nouveau l'occasion de jouer une demi-finale européenne dans sa carrière. Florent, si on parle, là j'ai donné donc les deux compos. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'animation? Alors, peut-être plus du côté, enfin tu fais comme tu veux, hein, mais peut-être plus du côté de Leipzig dans la mesure où Paris, c'est relativement classique par rapport aux joueurs alignés, alors que du côté de Leipzig, sur le tour précédent, il y avait une animation avec, sans ballon, il y a une certaine capacité à changer en cours de jeu, donc c'est peut-être plus là qu'il pouvait y avoir des incertitudes sur comment allait être utilisé l'Aimer, etc.
Ouais, c'est ça, et bon, au final, il n'y a pas eu beaucoup de suspense sur l'animation de Leipzig. On a découvert assez rapidement ce 4-5-1 ou 4-1-4-1 selon la position de Campbell, avec Leimer couloir droit, Sabitzer et Olmo autour de Campbell dans l'axe, avec Poulsen en pointe et puis Nkunku à gauche. Un 4-5-1 qui visait à fermer l'accès aux Parisiens à l'intérieur du jeu et au wall space, notamment pour éviter de trouver Neymar dans le wall space gauche où il a passé la majeure partie de la première mi-temps. Le truc, c'est que ce système-là, alors on voyait bien les triggers pour sortir pressé. On voyait que lorsqu'il y avait une passe vers Ander ou vers Paredes hors du bloc, il y avait Olmo et Sabitzer qui jaillissaient très vite. D'ailleurs, Paredes laisse partir un ballon en début de partie c'est Sabitzer qui sort bien sur lui. Maintenant, à part cette petite alerte, en fait, le problème de Leipzig sur l'ensemble du match, au-delà de cette phase défensive que je viens de décrire, avec ce bloc médian, c'est surtout leur incapacité à se créer des situations de transition où ils ont excellé tout au long de la saison. C'est-à-dire que là, lorsque Paris était en séquence de construction au milieu de terrain, Leipzig était incapable de récupérer la balle, sauf sur cette petite alerte que j'ai évoquée. Plus bas, ils subissaient généralement la possession parisienne, et quand Neymar avait la balle, ils avaient du mal à la récupérer. Quand Di Maria l'avait, c'était la même chose. Ils faisaient beaucoup de fautes. Ils ont donné beaucoup de coups francs aux Parisiens. Je crois qu'ils font 24 fautes sur l'ensemble du match. D'ailleurs, au match précédent, l'Atalanta en avait fait 29, mais c'était des fautes plutôt différentes. L'Atalanta, c'était pour couper une action de but. Enfin, une action qui partait sans doute au but. Là, Leipzig, c'était des contacts un peu rudes ou des choses comme ça où l'arbitre sifflait à chaque fois. Donc, pas de transition à partir du bloc médian, pas de transition, pas de longue contre-attaque à partir du bloc bas, parce que, un, ils avaient du mal à la récupérer, et deux, fallait ressortir bloc bas via Poulsen, et c'était compliqué face à Thiago Silva ou Kimpembe. Et pendant les 50 premières minutes, ils n'ont pas non plus essayé d'aller chercher Paris plus haut sur le terrain, donc pas de transition avec récupération haute jusqu'à ce qu'il y ait déjà 2-0 pour le PSG, parce que on les a vus sortir un petit peu en deuxième mi-temps. Mais à 2-0, je pense que le mal était déjà fait. Donc là où Paris a été bien dans ce match, c'est qu'à aucun moment Leipzig n'a réussi à placer une attaque rapide. Et on a vu ensuite sur le reste du match que sur attaque placée, il manquait de talent. Mais ça, on l'avait déjà vu aussi face à l'Atlético Madrid, où malgré leur très bonne animation offensive et leur 3-1-5-1 qui était très intéressant sur le plan des positionnements de chacun, il manquait la dernière passe, il manquait un peu de talent pour éliminer. Et ça, Leipzig en a manqué là aussi sur ce match, et encore plus parce que Paris a fait une meilleure partie que l'Atlético.
Raphaël, sur Twitter, on a une question de Ben Koro, alors qui a un côté humoristique, un peu anecdotique, mais qui, pour moi, révèle peut-être un petit peu plus de choses que simplement l'apparence. La question nous dit, c'est pas vraiment une question, mais j'espère que le costume un peu trop bien ajusté de Nagelsmann aura sa place dans le débrief du soir. Ça peut lui avoir fait perdre en lucidité. Je t'avoue que moi, quand j'ai vu Nagelsmann débarquer comme ça sur la première image avant le match, je me suis, alors c'est peut-être totalement d'interprétation, mais en gros, j'ai un peu deviné le truc de l'équipe et de l'entraîneur qui renie entre guillemets leur identité, qui se mettent un peu sur leur 31, mais qui finalement perdent une partie de leur insouciance. Alors c'est peut-être simplement moi qui suis totalement fou, c'est très possible. Mais quand ensuite j'ai vu la manière dont jouait Leipzig, je me suis dit, j'ai l'impression qu'en fait, ils font pas du Leipzig classique, un peu comme l'entraîneur qui est pas dans son style habituel, et que finalement, notamment dans le pressing, tu perds peut-être un peu cette insouciance. Alors, ça serait étonnant d'être rattrapé par l'enjeu en demi-finale plutôt qu'en quart de finale. Enfin, pourquoi spécialement à ce niveau-là? Mais je sais pas. Au-delà, bien sûr, du fait que le PSG est largement supérieur, je trouve que Leipzig est pas tombé. Genre, bon, on a essayé d'y aller, mais on est un peu parti la fleur au fusil, on a perdu, c'est normal. Là, je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop essayé de bloquer les Parisiens, ce que je peux comprendre, et que du coup, même en bloquant les Parisiens, ils auraient dans tous les cas manqué de créativité. Au mieux, ça aurait fait 0-0, ils auraient un peu essayé de tenir le truc le plus longtemps possible, mais qu'ils auraient quand même fini par craquer parce qu'ils ont joué, mais sans plus, quoi, finalement.
C'est vrai, ce qui m'a étonné de leur côté, c'est leur incapacité à presser haut. C'est quand même une marque de fabrique de Leipzig, et c'était le cas avant que Nagelsmann arrive. Lui, à Hoffenheim, aimait bien le faire aussi. Il l'avait fait contre Liverpool en barrage de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un mec qui, quel que soit l'adversaire, avait envie d'aller chercher haut. Alors peut-être que là, menacé et un peu effrayé par les attaquants parisiens et leur talent dans la profondeur, il s'est dit si on va presser haut, on va vivre ce qu'ont vécu d'autres équipes contre eux ou ce que des équipes peuvent vivre quand ils vont presser très haut, des équipes comme Liverpool qui peuvent partir vite dans la profondeur. Mais du coup, on a vu un Leipzig qui, quel que soit d'ailleurs son dispositif, où ça a démarré, comme le disait Flo, en 4-5-1, 4-1-4-1, puis c'est passé en 4-4-2 avec Olmo qui est venu dans l'axe avec Poulsen pour essayer de mieux défendre sur la première ligne. Mais ça n'a rien changé et ils n'ont jamais réussi à bloquer les Parisiens dans leur camp, à les agresser ou au moins en tout cas évoluer dans un bloc haut qui pouvait forcer les Parisiens à allonger. Peut-être parce qu'ils avaient peur de ces ballons dans le dos de la profondeur, hein. Ça c'est pas impossible. Mais du coup on a vu un Leipzig en bloc médian, un peu timide, qui s'est fait un peu balader par le PSG en première mi-temps. Et d'ailleurs je crois que la possession sur l'ensemble du match le confirme, 57% à 43%, ce qui paraît beaucoup alors qu'en plus Paris a mené très vite et en général avec le score qui avantage une des deux équipes, cette équipe laisse le ballon inconsciemment ou pas. Là, ils finissent quand même à seulement 43% de possession et c'est assez faible pour Leipzig qui a une des possessions les plus élevées en Bundesliga, il me semble quand même, Christophe. Enfin, c'est une équipe qui est habituée à avoir la maîtrise du jeu, à être protagoniste et à essayer d'aller vraiment soit embêter l'adversaire dans son camp, soit avoir la maîtrise du ballon. Là, ils n'ont eu aucun des deux et c'est vrai que cette entame de match a un peu tout traduit, parce que tu as vu un Leipzig dépassé sur les coups de pied arrêtés, tu as vu un Leipzig assez timide dans son approche du jeu, surtout sans ballon, c'est-à-dire qu'ils sont pas allés harceler, on parlera ce qu'ils ont fait avec ballon après. Alors je sais pas si ça correspond au costume de Nagelsmann, qui était très apprêté, mais ça m'a fait penser à ce que disait Klopp à une époque où il disait « oui, voilà, quand il y avait des grands matchs ou des grands soirs, je me mettais en costume ». Il l'avait fait d'ailleurs pour la finale de Ligue des Champions 2013, et puis après il s'est dit « mais je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien, et que voilà, moi je préfère être en jogging ou en tenue de foot quand je dirige mon équipe », et derrière depuis là, il a plus rechangé, même quand Liverpool est retourné deux fois de suite en finale de Ligue des Champions. Donc je sais pas, mais en tout cas bravo à l'entreprise Rantoswag de Parks and Recreation qui a fait un super billet sur cette tenue de Jürgen Nagelsmann que je valide pas du tout d'ailleurs. Tu sens vraiment que c'est le mec qui a pas l'habitude et là qui s'est dit ah il y a le bal de promo demain, qu'est-ce que je vais mettre. Et là franchement c'est assez rare de voir des entraîneurs partir aussi loin dans leur style. Il y avait j'ai oublié son nom, je crois que c'était Antonio Mohamed au Celta Vigo.
Oui, mais lui c'était un art de vivre finalement, le fait de mettre des tenues originales.
Ouais, et puis il était plus dans le style narcos, tu sais pas s'il va entraîner ou s'il va juste gérer tout un cartel, donc c'était un peu différent. Mais là en tout cas, c'est vrai que ça a étonné en début de match, et tu te dis, c'est difficile d'analyser, ça fait un peu analyse très très loin du terrain, mais tu te dis, est-ce que le coach s'est pas fait une montagne, peut-être un peu logiquement, de cette occasion, quoi. Pourquoi d'un coup s'habiller alors qu'en quart de finale tu l'avais pas fait, tu vois, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que c'est un des trucs qui parfois peuvent symboliser un état d'esprit dans un sens ou dans l'autre.
Pour revenir au
Mohamed qui a un côté Gennaro de Sebastiano, hein.
complètement.
Vas-y Flo.
Non, c'était pour revenir à ce que Raphaël disait sur la possession. À la mi-temps on était sur du 70-30 PSG. Donc c'était vraiment à sens unique, avec des Parisiens en plus qui arrivent à la pause avec 92% de passes réussies, ce qui est aussi un autre signe que Leipzig n'a pas réussi à presser, puisqu'il y avait assez peu d'erreurs forcées en face, et je pense assez peu de ballons perdus tout court, parce que si t'enlèves ces les passes ratées, il faut ajouter juste 12 ballons perdus par les Parisiens sur la première période. Donc ouais, on a vraiment eu un Leipzig très timide et qui, même à partir de son bloc médian, lorsque Paris n'avançait pas, n'osait pas non plus sortir, remonter sa ligne pour essayer de faire reculer les Parisiens, ce qui fait que Thiago Silva et Kimpembe, par exemple, ont passé la mi-temps sans jamais être attaqués ou presque. Et même Rico, dans les séquences où Leipzig aurait pu faire reculer Paris, Rico a encore moins été challengé sur du jeu long, à l'inverse de Gulacsi, justement.
Ouais, bah Florent, tant qu'on est là-dessus, à quel point est-ce que cette volonté de ne pas trop presser est liée à la qualité technique des Parisiens sous pression? Est-ce qu'il y a quand même certains joueurs qui ont pu être attaqués, qui sont sortis de ce pressing-là et qui, du coup, ont pu encore accentuer la prudence adverse, ou simplement en face ils y sont jamais allés, du coup on saura pas si les Parisiens ont vraiment fait un très bon match avec ballon, donc les Parisiens assez bas sur le terrain qui pourraient être soumis à ce pressing là.
Non, mais les Parisiens ont fait un assez bon match, un bon match avec ballon, mais le truc c'est que quand tu regardes sur l'ensemble du match, mais surtout à la mi-temps, le nombre de ballons touchés par les différents joueurs, J'ai les stats sous les yeux et ça montre bien que les Parisiens n'ont pas non plus pris énormément de risques en possession. Je regarde les passes effectuées par les Parisiens. À la pause, t'as Silva qui en a fait 72, Kimpembe 70, Paredes 62. Paredes évoluait la plupart du temps hors du bloc et descendait un petit peu dans le half space gauche pour se rendre disponible. Donc, avec ces trois-là, ils tenaient la balle tranquillement et Leipzig ne sortait n'a jamais essayé de sortir pour les perturber. Alors parfois, t'as Neymar qui est un petit peu décroché, t'as Di Maria, mais au final, ces deux-là ont joué sans rester assez haut. Même Herrera, qui a évolué un petit peu bas en début de match, est allé s'aventurer un petit peu entre les lignes au fur et à mesure pour justement mettre une menace dans le dos de Olmo qui sortait. Donc pour toutes ces raisons-là, Leipzig est pas sorti et c'est à se demander au-delà de ses choix vestimentaires si Nagelsmann n'a pas fait un petit peu, on avait fait un petit parallèle Nagelsmann Guardiola après la victoire de Leipzig face à l'Atlético, s'il montre pas quelques signes de Guardiolite, c'est-à-dire le fait d'avoir surpensé ce match, même s'il était pas du tout dans la peau de Guardiola qui était dans la peau du favori face à Lyon. Mais voilà, peut-être que qu'il a vraiment trop réfléchi et au final son équipe n'a pas ressemblé à ce qu'elle a fait sur le reste de la saison.
Raphaël, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression globalement, là, si j'ai un peu tous les matchs en tête, qu'il y a quand même une certaine logique dans les moments où les équipes marquent des buts finalement, que globalement ça sanctionne des temps forts et que l'équipe qui arrive à étouffer l'adversaire va marquer des buts. C'est-à-dire que Paris contre l'Atalanta prend un but quand ça va pas trop et ensuite ça pousse, ça finit par marquer. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'équipes que ça. Bon, après, le match de City-Lyon est peut-être un petit peu spécial là-dessus, mais qu'il y ait tant d'équipes que ça qui poussent et qui se fassent avoir en transition. Donc ça pourrait accréditer la thèse que c'était pas le sens de l'histoire, entre guillemets. C'est une histoire assez courte sur quelques matchs, mais pour Leipzig de subir et d'espérer contrer, parce que visiblement c'est pas le meilleur plan. Hormis donc peut-être ce match de City, mais encore que City, tu peux argumenter le fait qu'ils ont été extrêmement prudents par rapport à l'habitude.
Ouais, non, mais après, je pense que c'était peut-être des équipes qui restaient en lice là depuis quelques tours et depuis les quarts de finale, peut-être une des équipes qui était la moins apte à contre-attaquer, d'autant plus depuis le départ de Timo Werner. C'est-à-dire que si Leipzig voulait ou devait contre-attaquer, qui aujourd'hui dans cette équipe est capable de mener Leipzig sur 30-40 mètres dans la profondeur ? Poulsen ne peut pas le faire, ou en tout cas il peut récupérer un ballon temporisé, mais il ne peut pas partir vraiment seul ou diriger une contre-attaque. Sabitzer, avec toutes ses qualités, je ne pense pas qu'il ait le volume athlétique pour faire du De Bruyne. Donc, parler de la comparaison avec De Bruyne, je ne pense pas qu'il puisse faire pareil et être très percutant sur 20-30 mètres. Nkunku, c'est un peu pareil. Olmo, c'est encore très frais à ce niveau-là. Il y a 8 mois, il jouait à Dynamo Zagreb. Bon, Leimer, c'est un joueur assez particulier, mais c'est plus un joueur de pressing et de course que ce qu'il fait avec le ballon. Donc, franchement, autant je pense que d'autres équipes auraient pu le faire, et Lyon l'a fait notamment parce qu'ils avaient Aouar entre les lignes et qu'ils avaient Dembélé, Toko Ekambi qui pouvaient les prendre cette profondeur. Là, sur le coup, Leipzig, je pense que ce registre, ça leur colle pas du tout. Et finalement, le seul moment du match où ils ont un peu une domination, c'est quand Upamecano redevient ce numéro 6, là, et que c'est lui qui fait les différences en venant depuis l'arrière. Et c'est surtout sur attaque placée, quand le PSG a reculé en deuxième, qu'on a vu Leipzig avoir des occasions. Sur les autres contextes, ils en ont pas eu beaucoup, tu vois. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ce match collait pas et que de toute façon, être dominé quand t'es le Red Bull Leipzig, c'est très compliqué. Cette équipe ne sait faire pas mal de choses, mais subir et contre-attaquer et miser sur 3, 4, 5 séquences sur un match pour l'emporter, je pense qu'elle sait pas faire.
Bon, ça répond un peu aux questions de Brice Dufour qui nous demandait comment expliquer la frilosité dans le pressing de Leipzig. Alors, expliquer, c'est toujours difficile, mais en tout cas, on peut essayer d'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. La question de Monsieur Lee. Tim qui nous demandait si Werner avait été présent, ce que ça aurait changé, ça aurait au moins offert cette menace-là dans ce scénario de match où tu n'as que 30% de possession alors que tu as 54% de possession en Bundesliga, que tu es quatrième dans cette catégorie spécifique et que sur le tour précédent, tu n'avais pas besoin de profondeur parce que tu étais face à un adversaire qui attendait globalement et qui te laissait dérouler ton jeu. Florent, qu'est-ce que tu peux dire, on va peut-être revenir un petit peu à Paris aussi, sur de l'autre côté, le pressing parisien, parce que c'est peut-être ça qui est la chose, alors je ne sais pas dire que j'ai regardé d'un œil, mais j'ai un petit peu décroché après. Je regardais notamment la fin de Orlando Milwaukee parce que bon, je craignais quand même que le match soit assez vite plié avant même que ça débute, et ça s'est assez vite confirmé. Donc du coup, j'étais un petit peu moins investi émotionnellement, mais j'ai quand même été assez surpris. J'ai eu l'impression que tous les offensifs parisiens, alors Di Maria pas si étonnant que ça, mais Mbappé et Neymar, surtout Mbappé, avaient peut-être fait l'un de leur, allez, je sais pas, top 3, top 5 des matchs avec le plus gros investissement défensif, et que ça a aussi contribué au fait que le match se déroule majoritairement dans un camp.
Ouais, ils ont fait en effet sans doute leur meilleur match sur le plan du pressing, ou en tout cas depuis longtemps. C'était assez simple malgré tout. C'était un 3 contre 3 par rapport à la relance du Red Bull, et ensuite des milieux qui coulissaient vers le côté pour enfermer Leipzig lorsque ça sautait l'axe pour passer via les latéraux. Ce qui était intéressant, c'était justement l'explosivité des milieux aussi derrière, de Herrera et de Paredes, pour aller gratter des ballons dans les zones où alors Herrera s'est souvent retrouvé côté dans la zone d'Angelino. Paredes, lui, je crois que c'est lui à un moment donné qui sort et qui va chercher un ballon dans les pieds de Campbell ou perturber Campbell, il me semble. Donc ça aboutit à une récupération haute du PSG. Et c'est vrai que ce pressing-là a été une vraie force du PSG. Et c'est vrai que lors du match entre Leipzig et l'Atlético, l'Atlético n'était pas vraiment venu challenger Leipzig dans ces zones. Et du coup, on savait pas vraiment ce que Leipzig valait, en tout cas au moment de ce Final 8 dans ces zones-là, et on a finalement vite vu, parce qu'à la sixième minute ou quatrième minute, ça doit déjà faire, enfin, ça aurait déjà pu faire but de Mbappé. D'ailleurs, ça m'aurait permis de rentrer mon pari, moi, sur le dégagement de Gulacsi avec Neymar qui le contre de la main. Et finalement, la sanction tombe juste avant la mi-temps avec le 2-0, où c'est encore une mauvaise passe de Gulacsi et un ballon qui revient, Neymar à la passe D et Di Maria pour le but. Et même le troisième, on peut considérer que c'est encore un pressing. Cette fois, c'est plus à la perte de balle, mais un pressing réussi des Parisiens, une récupération haute sur Mukiele qui tombe un peu bêtement. Mais c'est là aussi, ça va renvoyer à un autre point sur Leipzig et un autre questionnement, c'est que dès la quatrième ou cinquième minute, ils ont donc cette alerte dont je parlais avec le but refusé. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir ressortir court à nouveau et te remettre en danger en plus, parce que concrètement le PSG à ce moment-là du match, certes ils ont la maîtrise, mais dans le jeu concrètement ils ont marqué sur coup de pied arrêté par la suite, mais dans le jeu sur attaque placée ils n'ont pas eu énormément d'opportunités, que ce soit à ce moment-là du match ou même sur les 90 minutes. Paris n'a pas construit grand-chose dans les 30 derniers mètres de Leipzig, ils ont surtout profité des erreurs, et à partir du moment où tu as du mal à ressortir court et où tu as en plus généralement une équipe qui est plutôt bonne sur le jeu long et la bataille pour les deuxièmes ballons, pourquoi tu mets pas le match sur ce terrain-là, ou t'essayes pas d'aller sur ce terrain-là pour voir comment ça peut se passer? Ils auraient peut-être perdu quand même, mais je pense qu'ils auraient offert moins de situations au PSG, et en tout cas ils auraient pas offert ce deuxième but. Le troisième c'est un peu différent, mais ce deuxième but n'aurait pas existé.
Raphaël, alors toi, bon, tu bosses avec des jeunes, donc c'est différent, il y a l'aspect apprentissage de certaines phases de jeu, mais qu'est-ce que tu penses quand même quand tu vois effectivement cette équipe qui veut entre guillemets jouer de la bonne façon, mais qui n'a visiblement pas les individualités pour le faire, et surtout sur ce match-up, parce que bon, c'est toujours facile de tirer des conclusions sur un match, quand tu vois ce qu'a fait Varane en huitième de finale, tu peux dire bon, Varane ne va plus jamais faire une passe sous pression, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à la fois Gulacsi, qui est pas le meilleur au pied, mais ça on le savait déjà, et Campbell, où j'étais assez surpris de son match au tour précédent, parce que je le retrouvais un petit peu limité, mais là en fait, au lieu d'avoir une seconde et demie pour contrôler, il avait une demi-seconde, et on s'est rendu compte que ça pouvait être assez limité à ce niveau. À quel moment est-ce qu'il faut, entre guillemets, abandonner le plan A? Est-ce que ça dépend uniquement de cette capacité à être efficace dans un plan B, donc à attaquer les deuxièmes ballons si Poulsen perd les duels aériens?
C'est difficile à juger, parce qu'en plus, Leipzig et Nagelsmann ont quand même, depuis qu'il est là en tout cas, le réflexe de savoir sortir court, de savoir sortir proprement, et c'était très important pour Nagelsmann à Hoffenheim. Donc là, le ne plus le faire une fois que tu arrives en demi-finale, ça demande une adaptation qui n'est peut-être jamais arrivée pour lui. Et j'étais en même temps que tu parlais, Christophe, parce que j'anticipais un peu ton développement, de regarder le parcours de Leipzig en Ligue Europa, en Ligue des Champions cette saison, pour savoir qui avait pu les presser. Et quand tu regardes le parcours, Alors, ils ont joué Benfica, ils ont joué Lyon, Zénith. Derrière, en huitième, ils jouent Tottenham. Ils jouent l'Atlético en quart. Donc, qui a pu les presser? Pas grand monde, en tout cas. Je pense que personne, en tout cas, aucune de ces équipes n'a vraiment imprimé un pressing très fort, un pressing haut agressif. Et du coup, Leipzig, depuis le début de la saison, que ce soit en Bundesliga et en Ligue des Champions, n'a connu peut-être que deux ou trois matchs où l'adversaire est venu presser très très haut et a été plus fort individuellement que Leipzig. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le Bayern en Bundesliga, peut-être Dortmund en Bundesliga, et encore Favre n'est pas forcément celui qui presse le plus haut et de manière le plus agressive. Ça va être plutôt être un bloc médian en zone qui va intercepter les ballons.
Leverkusen.
Ouais, Leverkusen, qui est une équipe de malades mentaux en termes de pressing, et peut-être Gladbach, mais c'est pas forcément des équipes qui sont meilleures individuellement ou collectivement que Leipzig. Donc t'es pressé, mais t'es pressé par quelqu'un qui est moins bon que toi. Ce qui fait que c'est quand même plus facile de s'en sortir. Là, Leipzig a été pressé par une équipe qui est meilleure individuellement, et qui en plus a des individualités qui, quand elles vont presser, peuvent le faire très bien parce qu'ils sont très explosifs. Et c'est pour ça que ça m'énervait d'autant plus quand Mbappé, Neymar et Di Maria le faisaient pas, surtout les deux premiers. C'est quand tu peux presser avec des joueurs qui vont aussi vite sur 10-15 mètres, t'es hyper efficace. Il suffit de le voir à Liverpool, où Firmino, Mané et Salah, quand ça se met à presser, c'est très difficile pour les centraux ou pour les latéraux, parce qu'en général, ils sont moins explosifs, moins vifs et moins bons dans la vitesse d'exécution que les adversaires. Donc généralement, tu finis par dominer. Mais je trouve que ça fait vachement regretter le fait que Tottenham, bon, moins, parce que Tottenham, on s'en fiche un peu cette saison, mais que l'Atlético de Simeone ne soit pas sorti de son plan bloc bas, parce que l'Atlético avait aussi, je pense, les meilleures individualités, avec des joueurs au Félix, avec des joueurs comme Thomas Partey qui n'est pas sorti du banc, et d'autres encore, en tout cas plus de talents individuels. Et s'ils avaient cherché à embêter Leipzig plus haut, je pense qu'ils auraient pu avoir d'autres occasions, comme Paris en a eu. Simeone a préféré rester dans son plan classique et même pas faire l'effort sur les premières minutes d'aller presser haut comme il le faisait contre le Barça à une époque, ou contre le Bayern de Guardiola. Et c'est dommage, parce que je pense que ça a aussi profité à Leipzig et qu'on les a pas vus trop beaux, hein, parce qu'ils avaient été très bons contre l'Atlético, mais qu'on les a pas vus dans le contexte qui les fait sortir de leur zone de confort. Et là, Paris, en l'occurrence, a très bien défendu, a très bien pressé, et je trouve ça d'autant plus étonnant que généralement, le switch, on défend jamais en saison, pendant un championnat, ou que ce soit en Ligue des Champions jusque-là, et on se met à défendre les trois de devant quand on arrive au moment les plus importants. Je ne crois pas d'habitude à ce fonctionnement. C'est un truc qui est souvent évoqué en NBA, et c'était le cas pour le Cleveland de Kyrie Irving et LeBron James, sur le côté, est-ce qu'ils vont défendre en playoff alors qu'ils ne défendent pas pendant la saison régulière? Bon, eux avaient réussi à le faire, et là, le PSG a réussi à le faire, et je veux pas dire que c'est admirable, mais c'est fort d'avoir réussi à, finalement, à activer un truc que tu n'avais pas construit comme un réflexe et une habitude. C'est plutôt bien, et ça montre aussi que ces joueurs sont capables de se responsabiliser. C'est dommage qu'ils le fassent pas un peu plus sur les matchs hebdomadaires en Ligue 1, mais peut-être aussi qu'ils ont du mal à se motiver pour faire pareil contre Dijon et compagnie.
Florent, une question d'auditeur que je vais compléter par une question préparée par mes soins, de Anthony, un étudiant qui tweet. Cette victoire est-elle due à la réussite tactique de Tourelle ou aux limites des joueurs de Leipzig? Question à laquelle je te rajoute, est-ce que finalement la plus grande réussite de Tourelle sur ce match-là, c'est pas simplement d'avoir convaincu ses joueurs offensifs de faire le sale boulot sans ballon, parce que sur tout le reste du match, il n'y avait pas, à moins de faire entre guillemets une énorme erreur, mais en jouant comme tu avais l'habitude, tu n'avais pas grand-chose à risquer face à une équipe pareille.
Ouais, c'est difficile de parler de victoire tactique de Tourelle à partir du moment où il y a un tel écart entre les joueurs. Pouvait parler de victoire tactique face à Leipzig face à l'Atlético, tu pouvais parler de victoire tactique de Lyon face à Manchester City, ou de défaite tactique de Manchester City face à Lyon, à voir comment on se place. Mais là, à partir du moment où d'un côté t'as Neymar, Mbappé, Di Maria, Thiago Silva, Kimpembe, par rapport à en face où il y a aucun joueur de ce niveau-là, ou peut-être qu'Upamecano va atteindre ce niveau, mais à part lui, c'est difficile d'imaginer d'autres joueurs de Leipzig arriver aussi haut en carrière. C'est difficile de dire victoire tactique de Tuchel. Maintenant, tu peux reconnaître en effet que son plan de jeu a été très bon. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Paris a contrôlé le match du début jusqu'à la fin. A attendu, entre guillemets, les erreurs, les a provoquées aussi par le pressing. Et ils sont allés chercher la victoire comme une équipe qui est arrivé sur le terrain en se sachant supérieur, sûr de ses forces, sans trop forcer, et en attendant que l'autre craque. Et c'est aussi le signe d'une équipe qui tourne bien malgré les défauts qu'on peut qu'on peut creuser, notamment le fait que sur attaque placée, ils n'ont toujours pas fait grand-chose. Mais globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter, mis à part que j'ai oublié ta deuxième question.
Non, mais c'était ça. C'était quel était le... Est-ce que Tourelle a apporté quoi que ce soit de nouveau tactiquement, à part avoir convaincu sa ligne offensive de courir et donc du coup de rendre un pressing viable, parce que tu peux difficilement presser si ta première ligne c'est un joueur qui court et de qui le regarde, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, il les a convaincus. L'avantage quand t'as une première ligne qui rechigne parfois à défendre, si le plan défensif ne consiste qu'à presser, généralement tu peux les convaincre, surtout sur une demi-finale de Ligue des Champions, sur un match, enfin le contexte. Si les mecs refusaient de presser, de faire les courses sur ce match-là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auraient pu les faire. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait que Leipzig n'ait pas adapté son plan après la première alerte qui n'a pas été finalement sanctionnée d'un but, mais qui aurait pu, ce but refusé à Mbappé. La vraie question, c'est si dans ce plan défensif, il faut aussi que ces mecs-là pressent, enfin, après avoir pressé, doivent faire les 50 ou 60 mètres dans l'autre sens pour défendre vers leur but. Et là, en fait, pareil, on n'a même pas eu l'occasion de voir s'ils étaient convaincus pour ça aussi, vu que Leipzig n'a jamais essayé le jeu long, le deuxième ballon, et d'avancer face à une défense qui recule, mais qui a perdu 3-4 éléments parce qu'ils ont été sautés par le jeu long. Là, est-ce que Mbappé, Neymar, Di Maria auraient fait l'effort? On a vu un petit peu en deuxième mi-temps à quoi ça pourrait ressembler, ce PSG un peu plus bas, donc j'imagine qu'on va enchaîner dessus. Mais il y a cette question qui, à mon sens, reste en suspens, parce que Leipzig n'a pas forcément utilisé cette option du jeu long et des deuxièmes ballons.
Ouais, bah tiens, bah, puisque Florent nous a lancé là-dessus, Raphaël, qu'est-ce que tu peux dire de cette autre configuration? Est-ce que Paris peut être dominateur dans tout? Parce que là, on va aussi quand même un petit peu se projeter sur la finale, même si, selon le visage de l'adversaire, le match en finale sera totalement différent. Est-ce que tu vois Paris capable, grâce notamment à sa faculté à bien défendre sa surface, capable d'affronter entre guillemets toutes les situations, où tu peux avoir quelques doutes parce que avec ballon, petit manque de créativité, et sans ballon, il peut y avoir je sais pas, des points faibles ou des situations assez difficiles à gérer?
Bah, sur la défense de la surface en elle-même et vraiment ce qui se passe dans la surface, je pense que ça va. Par contre, dans le bloc bas, ce qui m'inquiète, notamment si c'est contre le Bayern, c'est plus la défense dans les couloirs. Que tu puisses défendre le centre, c'est très bien, mais si ton latéral se fait éliminer, derrière, tu vas défendre un centre qui est complètement différent. Là, le PSG a défendu des centres où le latéral était rarement éliminé. C'était des centres où le ballon allait, par exemple, vers Leimer, qui remettait en retrait vers Sabitzer, qui centrait en une touche, par exemple, vers le deuxième poteau. Ça, c'était plus simple à défendre que le centre quand Kerrer ou Bernat est éliminé et que derrière, tu as un Kimmich, un Davies, un Perisic, un Gnabry qui peut centrer en retrait, qui peut centrer fort au premier, qui peut trouver un joueur encore plus en retrait à l'entrée de la surface. Ça, c'est plus ça qui m'inquiète si le PSG défend bas. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable dans ces couloirs de défendre bas, et est-ce que tu vas avoir des Di Maria et des Mbappé, puisque c'est eux qui vont défendre dans les couloirs maintenant en théorie, puisque Neymar est vraiment installé dans ce rôle de numéro 9, de faux numéro 9. Est-ce que tu peux, avec Kerrer et Bernat et Di Maria et Mbappé, défendre vraiment 2 contre 2? Ou est-ce que Di Maria et Mbappé vont à un moment lâcher leurs joueurs ou ne pas arriver à être réguliers dans leur défense sur ce bloc bas? C'est plus ça qui m'inquiète, si c'est le Bayern, évidemment. Je sais que l'OL va se qualifier sur un doublé de Toko et Kambi, donc je pars quand même pour parler du Bayern, et puis après, ce sera complètement différent si c'est l'OL, parce que l'OL anime moins les couloirs que le Bayern, évidemment, avec ce 3-5-2. Donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est Silva et Kimpembe ont encore été très bons, et je pense qu'ils peuvent enchaîner par une bonne performance en finale. C'est vraiment les extrémités de cette ligne défensive qui sont plus gênantes si t'es sur des attaques répétées du bloc. Là, il y a eu pas mal de centres de Leipzig. À chaque fois, c'était bien renvoyé par Silva, par Kimpembe, par Kerrer qui, au deuxième poteau, est arrivé quelques fois pour aider, même s'il fait un match moyen sur d'autres plans. Mais voilà, si j'avais une inquiétude sur ce bloc bas, ce serait celle-ci.
Florent, même question. Quelle inquiétude tu peux avoir? Bon, les satisfactions, on les connaît, on évoquera encore d'autres, notamment Neymar. Par la suite, qu'est-ce qui peut poser souci à cette équipe de Paris?
Non, mais même chose.
Étonné que Raphaël n'insiste pas sur Kerrer, hein, en plus.
Non, mais c'est plus avec ballon que sans ballon qui m'a gêné. Donc, on pourra en parler après sur l'aspect offensif, Christophe.
Non, mais même chose. Défensivement, c'est en effet la fermeture. Hein. La fermeture des côtés, parce que il y aura beaucoup plus de compétences dans le 1 contre 1, surtout sur le côté gauche du Bayern, même si à droite, c'est vrai qu'il y a aussi Serge Gnabry qui peut éliminer. Il y a aussi Maxwell Cornet qui peut éliminer côté lyonnais, donc ça en fait beaucoup. Et en plus, il sera face à Kerrer, donc il y aura vrai duel. Mais plus sérieusement, c'est vrai que quand tu regardes ce soir côté Leipzig, ça a manqué. Disons que la défense basse du PSG a en effet tout renvoyé dans l'axe, mais elle n'était jamais en situation d'urgence, de décalage, etc. C'était des centres généralement faits sans forcément d'élimination avant. C'était des choses assez faciles, entre guillemets, c'est pas toujours facile, mais à renvoyer pour Silva, Kimpembe, qui finissent quand même la soirée avec 10 dégagements pour Kimpembe et 8 pour Thiago Silva, auquel on peut en ajouter 4 de Di Maria d'ailleurs, qui a aussi été présent dans la surface. Donc là, on voit aussi le fait que sur le bloc balle PSG, c'était deux lignes de 4 concernées. Et Neymar qui revenait un petit peu aider les milieux, et Mbappé qui restait devant pour jouer les transitions. C'est sans doute ce visage-là qu'on aura face aux demi-finalistes. Et sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Raphaël. Sur les côtés, forcément, Paris sera beaucoup plus challengé dans les 1 contre 1, sachant que ce soir, Leipzig a tenté 13 dribbles et n'en a réussi que 5.
Raphaël, si on passe avec ballon, alors on peut partir sur pas mal de sujets, on peut parler des défenseurs type Kerrer qui n'a peut-être pas cette capacité à beaucoup faire avancer le ballon de manière propre, à faire toujours les bons choix. Je peux parler du milieu avec notamment l'intégration de Paredes qui a, je trouve, continué ce qu'il avait fait sur son entrée sur le match précédent parce que lui est capable de prendre ses risques sur des passes qui sont finalement pas si difficiles que ça, mais qu'il faut voir et qu'il faut oser tenter pour faire avancer le jeu. Alors, tomber une bouteille d'eau.
Quelqu'un qui vient de se suicider chez toi.
Ah non, mon chat est un petit peu offensif avec tout ce qui se trouve près de moi. Et tant pis, on fera pas de montage, c'est rigolo. Ou alors sinon, l'attaque avec à la fois les deux nouveaux, enfin 1,5 si tu considères que Mbappé avait déjà joué une demi-heure au match précédent et Neymar qui est encore excellent. Vas-y, the floor is yours.
Ouais. Après sur Paredes et ses passes relativement faciles, je trouve qu'il les claque quand même particulièrement bien. Alors il y a pas grand monde qui peut les contrôler aussi bien que Neymar aussi. Donc je pense que ça les rend encore plus belles. Mais en effet, tu l'as dit, il faut les voir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui les voient et qui surtout les tentent dans le bon timing. Il a réussi à se mettre, je trouve, au niveau en termes d'intensité, ce qui était un peu l'inquiétude sur lui dans ce genre de match, même si l'intensité était peut-être plus faible d'ailleurs finalement que contre l'Atalanta sur ce match, parce que le score et la domination parisienne a fait que Leipzig est vite retombé dans ses espoirs de qualification. Non, mais avec ballon, oui, tu as parlé de Kerrer, où tu as dit qu'il avait du mal à... Sur le plan technique, c'est vrai qu'il a eu du mal globalement à jouer au foot avec ses partenaires ce soir. Je trouve que le nombre de ballons perdus sur des prises de balles simples, ou à chaque fois, en fait, notamment quand Thiago Silva lui donne le ballon, sur sa prise de balle, il l'a subi. Derrière, il constate l'orientation de son ballon, soit elle fuit à droite, soit elle fuit à gauche, sur sa prise de balle, et il s'adapte en cours, au lieu de, avant sa prise de balle, choisir dans quelle direction aller. Il y a plusieurs fois où il est attaqué au pressing par Nkunku. Et sur sa prise de balle, il ne choisit pas, en fait. Il subit sa prise de balle, on dirait que c'est plus facile pour Nkunku qui peut continuer son pressing, et Kerrer est obligé d'allonger, de jouer un peu au hasard. Donc je pense que s'il y a un joueur qui peut être visé par le pressing adverse en finale, ce sera Kerrer. Si en tout cas, il est toujours dans le 11, parce que vraiment, il a eu beaucoup de mal balle au pied. Et je pense qu'il s'installera à terme à un poste de central. Est-ce que ce sera un grand central? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas du niveau de Jules Koundé, la pépite de Florent, qui pouvait très bien jouer central en possession et latéral défensivement, ou inversement. Qui était très bon dans ce domaine-là. Donc vraiment, s'il y a une performance à minorer un peu, c'est celle-là, parce que je pense que c'est vraiment lui qui a été en difficulté. Sur toutes les autres individualités, bon, on peut parler de Neymar qui a encore été très bon dans un rôle de faux neuf et qui a bien résisté à la pression, même s'il n'a pas claqué 16 dribbles. En tout cas, c'est un rôle qui lui va à merveille, et quand c'est en plus accompagné par un Di Maria comme ça et un Mbappé qui a eu de cesse d'attaquer la profondeur, en tout cas en première période, c'est très bien, mais bon, ça, il n'y a rien d'étonnant, et je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, on n'apporte pas grand-chose aux gens qui nous écoutent en disant que Di Maria et Neymar et Mbappé sont des bons footballeurs. Par contre, une question qui peut se poser sur la suite de la compétition, enfin le reste de la compétition, la finale, c'est comment agencer le milieu de terrain avec le retour de Verratti, qui là est entré en fin de match. Est-ce que tu le fais démarrer la finale? Ce sera peut-être un peu court, tu peux compter sur lui pour rentrer en cours de jeu, tu as 5 changements. Mais si tu le fais démarrer la finale, qui est-ce que tu sors de ton milieu à 3? Parce que Herrera, Paredes et Marquinhos, ça a très bien marché sur cette rencontre sans ballon. Ils ont pu agresser, ils ont pu aller chercher haut. Alors Verratti peut le faire aussi. Mais là, ils ont un fonctionnement qui est plutôt efficace et qui permet à à Neymar et Mbappé de rester un peu plus haut sans pour autant déséquilibrer l'équipe. Donc le retour de Verratti, dans quelle forme physique, dans quel rôle, à la place de qui, sera intéressant selon ce que tu joues, le Bayern ou l'OL. Je pense que si tu joues le Bayern, peut-être que Tuchel aura tendance à reconduire le même milieu et à faire rentrer en Verratti en cours de match si l'intensité redescend un peu parce qu'il revient de blessure. Si c'est l'OL, peut-être qu'il le fera démarrer direct parce que l'OL va laisser le ballon à l'adversaire. Ce sera curieux de suivre comment ça va être organisé parce que Verratti a beaucoup manqué au PSG sur le match contre l'Atalanta. Là, il a moins manqué. C'est un joueur exceptionnel. Mais Tuchel a réussi à trouver un truc qui, là, marche plutôt pas mal. Donc, dans un registre un peu différent du reste de l'équipe, d'ailleurs, de la ligne défensive et la ligne offensive qui sont pas mal techniquement. Herrera et Paredes sont des bons joueurs, mais ils ont surtout été au mastic sur pas mal de séquences pour récupérer des ballons hauts et permettre au PSG de défendre plus haut qu'il ne faisait ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir comment Tuchel va prendre des décisions sur le 11 de la finale.
Bon, on a beaucoup de questions à ce sujet, notamment une de Jojo Apple Pomme. Paredes Verratti dans cette formation, est-ce que ce sera viable en finale, Florent, sur ça et sur le reste de l'animation, parce que bon, là, Raphaël a recentré là-dessus, mais si tu veux dire quelques mots sur Di Maria ou les autres, je te laisse, mais oui, quand même évoquer un petit peu de Verratti, parce que c'est une vraie question, alors tant mieux pour Paris qu'elle se pose, ça veut dire que les remplaçants ont été bons, mais autant si Navas est apte, je pense que voilà, enfin, il n'y a aucun moment la question se pose du gardien, autant là, le milieu de terrain, il y a une articulation qui est plutôt très intéressante. Le souci, c'est que le questionnement sera pas le même en finale face au Bayern. Et tu peux te demander, est-ce que tu mets Verratti en te disant il va réussir à sortir du pressing de Müller et du coup, tu vas pouvoir attaquer avec encore plus d'espace? Ou alors, est-ce que tu fais l'inverse, tu essayes de pas du tout rentrer dans ce jeu-là et puis tu laisses la bataille du milieu de terrain. Et puis, si tu es trop pressé, bah, tu balances loin devant et toi-même, tu essayes de presser haut, mais sans essayer de faire ce qu'a fait Leipzig.
Non, je pense que ça va juste se jouer sur la forme physique de Verratti. J'arrive pas à imaginer en fait un scénario où si Verratti est à 100%, il ne démarre pas le match. Même s'il y a eu une bonne performance en effet des trois milieux aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer un Verratti même à 80-90% ne pas démarrer la finale. Tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Ça me surprend même que Raphaël puisse l'envisager. Après, non, oui, mais s'il est à 60%, voilà. Bon.
C'est plus ce scénario-là, ouais, qui est quand même plus probable vu la date du retour, tu vois.
Oui, c'est certes.
On est mardi, qu'il va jouer dimanche et
on après le
maintenant. Donc, tu vois, c'est plus ça la question que je me pose. Évidemment, s'il est à 100%, il peut faire Paredes en mieux ou en tout cas sur l'aspect ballon, il sera meilleur que Paredes et il sera pas moins bon sans ballon. Donc, je pense que s'il y en a un qui saute, c'est peut-être plus lui qu'Herrera d'ailleurs.
Ouais, je pense aussi, parce que Herrera a montré quelques trucs aussi sans ballon, plus haut sur le terrain, quand Paredes a été quand même assez, j'en parlais tout à l'heure avec le nombre de ballons qu'il a touché, a été assez reculé sur le terrain, donc assez loin de la pression. D'ailleurs, une des rares fois, il l'a prise. Malheureusement, j'en reparle, j'ai déjà mentionné deux, trois fois, mais c'est un des rares qui a perdu un ballon sous le pressing adverse. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'en effet, Ander a peut-être un coup d'avance si Tuchel doit choisir entre les deux pour remettre Verratti. Après, le fait que Verratti entre en jeu, il a dû jouer 10 minutes, un petit peu moins, je pense, ce soir. Il rentre à 83e. Je pense que s'il rentre 10 minutes, c'était vraiment en guise de test et qu'ils vont envisager qu'il puisse débuter. Après, je pense qu'il sera... Après, tu peux aussi te poser une autre question, c'est... Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir sur le banc et le faire rentrer pendant la dernière demi-heure ou qu'il ait une heure de jeu dans les jambes et lui faire jouer cette heure de jeu? Tu peux aussi prendre les choses comme ça. Et même dans ce cas-là, je pense qu'une heure de Verratti sera, dès le coup d'envoi, sera sans doute plus pertinente qu'une demi-heure à la fin, sachant que tu ne sais pas trop où le match en sera en termes de score à ce moment-là.
Raphaël, sur les autres individualités, tu veux vraiment rien dire de Di Maria, Mbappé et Neymar?
Non, mais
t'as le droit.
Non, mais on peut en parler, mais ils ont été très bons. Neymar, c'est comme dans la lignée de son match contre l'Atalanta, avec toujours un peu des problèmes de finition, mais là pour le coup, je pense que les occasions qu'il a eues sont un peu plus difficiles. La première, c'est celle qu'il met sur le poteau là quand Mbappé le lance. Il y en a une sur coup franc où il se la crée tout seul et il trompe presque Goulachi sur un coup franc lointain. Il y en a une troisième où il reçoit un centre en retrait, il frappe plat du pied, je crois que ça frôle le poteau. C'est ça les trois occasions principales qu'il a. il me semble. Donc c'est pas les occasions énormes qu'il avait ratées contre l'Atalanta. Bon, il a la passe des géniales pour Di Maria, que j'ai raté d'ailleurs, parce que mon stream a explosé à ce moment-là, mais que Florent m'a raconté, je l'ai revu après. Donc non, super passe D, et puis il a été très bien, il a été efficace, il a été très bien placé entre les lignes. C'est, je pense, un des 10 aujourd'hui qui arrive le mieux à alterner entre décrochage et positionnement entre les lignes. Il s'oriente très bien, et puis il résiste à la pression magnifiquement. Il a encore calé un beau petit pont là, un moment, je ne sais plus à qui, c'est à Sabitzer ou à Campbell, ou à Leimer, je ne sais plus, mais un magnifique petit pont. Et puis Di Maria a été dans sa forme quand il est bon, c'est-à-dire qu'il est capable d'être créateur, il est capable de se déplacer, d'appeler dans la profondeur, il est capable d'être décisif dans la surface. Il a apporté énormément, et puis il a beaucoup défendu aussi. Et j'ai l'impression que c'est souvent de son côté que le PSG a récupéré le ballon, en tout cas a enfermé le Leipzig dans son pressing, où ils emmenaient le Leipzig vers la passe vers le latéral, et puis à partir du moment où, par exemple, je crois que Alstenberg jouait vers le latéral gauche, c'était terminé parce que c'était plus possible. Donc ça, c'était Klosterman, parce que c'est Klosterman qui a commencé le match et Alstenberg est rentré après. Donc quand Klosterman faisait cette passe vers Angelinho, souvent ça déclenchait le pressing du PSG, et Di Maria, Herrera et du côté droit Kerrer arrivaient à bien enfermer, à récupérer pas mal de ballons. Donc ça, c'était plutôt positif, et je trouve qu'il a fait un match super complet que ses stats d'ailleurs confirment. Je crois qu'il a les meilleurs stats de la rencontre: 5 occasions créées, 2 tirs, 4 dribbles réussis, 2 fautes obtenues. Donc c'est vraiment hyper complet, et il a rivalisé avec Neymar sur ce match en termes de création.
Et sur WhoScored, il a 10, alors que le deuxième meilleur est à 8,4, c'est Neymar. Donc Di Maria, sur l'aspect statistique, a fait ce qu'il fallait. Tiens, petite question, Florent, à ton avis, combien de kilomètres parcourus par chaque équipe?
Je
rappelle que le plus faible, c'était le Barça à 98 au tour précédent, et que Leipzig avait fait 115 comme l'Atlético sur le quart de finale.
Je pense qu'on peut dire je pense que Leipzig a moins couru. Je vais faire par élimination. Leipzig a beaucoup moins couru ce soir. Je vais dire 108 Leipzig. Tu me dis?
Leipzig est à 105.
105. Et ben 107 PSG.
99.
Eh ben, d'accord. Donc Paris a encore moins couru et encore plus contrôlé. Mais tu vois, Leipzig qui court 10 km de moins qu'il y a 3 jours, ça renvoie à ce qu'on disait au début sur leur projet de jeu très, très surprenant par rapport à leurs habitudes, et très, très conservateur, très prudent, et sans doute trop prudent, parce que pour finir sur eux, t'as l'impression qu'ils sont tombés mais sans vraiment jouer comme ils en avaient l'habitude.
Et juste pour finir sur eux, on a une question de Ghislain Correa qu'on salue, qui nous dit: combien de joueurs de Leipzig permettraient au PSG de mieux jouer?
De mieux jouer, pas beaucoup quand même. Hein. Enfin, ça dépend ce que tu appelles mieux jouer. Je ne sais pas ce que Ghislain l'a entendu par sa question. Mieux jouer sur le coup.
Alors, si tu perds Thiago Silva, tu peux prendre Upamecano.
Ouais.
Mais au-delà de ce cas particulier, je serais curieux de voir ce que donnerait un joueur comme Sabitzer dans un collectif comme le PSG, genre en troisième milieu à la place d'Herrera. Je serais curieux de voir ce qu'il serait capable de faire. Après, t'as déjà le... Ça, c'est pour la blague. T'as déjà le joueur qui se rapproche peut-être le plus de Messi avec Neymar. Pourquoi ne pas aussi aller chercher le Messi du pressing avec Leimer? Mais là, c'est un truc tout à fait différent et pas du tout le projet parisien, même si, là encore, dans les trois du milieu qui courent beaucoup, il pourrait s'insérer sans avoir toutefois la qualité technique qu'on a vue ce soir.
Parce que là, Florent, quand même, ce qu'on peut dire, c'est... alors, c'est peut-être un petit peu dur, mais quand je vois ce milieu à trois, je me dis que entre Marquinhos, alors qui est très bon joueur, et voilà, alors surtout en défense de base, mais qui fait un milieu tout à fait pertinent, qui marque ses buts, donc là-dessus, pas de souci. Mais lui, qui est quand même une adaptation à un joueur replacé, Herrera, qui sort un peu de nulle part sur le côté, il avait l'air totalement cramoisi en Angleterre, et sur ses débuts à Paris, tu te demandais si franchement il était meilleur que Touzard, voilà. Et le troisième, Paredes, qui jusque-là était quand même pas mal critiqué, parce que tu te demandais vraiment quelles étaient ses forces au-delà de... Enfin, en gros, tu voyais quel était son profil de joueur, mais tu te demandais si dans ce profil-là, c'était vraiment le meilleur ou pas. Et là, tu te retrouves avec une équipe qui gagne sa demi-finale de Ligue des Champions 3-0. c'est quand même à se demander, enfin on a déjà eu des preuves par le passé, hein, c'est pas un truc tout à fait neuf, mais à quel point ça sert vraiment d'avoir des milieux créatifs à partir du moment où tu as une attaque aussi douée et qu'en plus tu as la défense qui peut bien gérer sa surface. C'est-à-dire que là, tu pourrais, à partir du moment où tu mets trois coureurs et que bon, ils sont en plus capables de faire deux, trois passes vers l'avant, je vais pas dire que tu es intouchable, mais face à des équipes un peu moins bonnes, tu as quand même une certaine marge.
Alors, je vais faire un parallèle assez simple et qui fera plaisir ou pas à Raphaël, je sais pas. Mais les deux dernières finales de Ligue des Champions avec Liverpool, le projet s'apparente un petit peu à ça, avec peut-être des couloirs plus créatifs avec Alexander-Arnold et Robertson. Mais le talent devant, des milieux coureurs et une charnière centrale qui protège parfaitement sa surface, c'est aussi les ingrédients qui avaient permis à Liverpool d'aller gagner la Ligue des Champions et de faire finale la saison précédente. Donc c'est un petit peu dans l'air du temps pour aller loin en Ligue des Champions, même si côté Liverpool, faut aussi ajouter Alisson pour la gagner. Et là, pour l'instant, c'est Sergio Rico qui n'en a pas gagné, mais qui n'a pas été sollicité ce soir. Donc c'est pas la peine non plus de l'enterrer ou quoi que ce soit. Mais voilà, si Navas revient, t'as quand même une base qui a permis à une autre équipe de gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Et c'est vrai que ce que montre le PSG sur ce match-là, même si c'est pas le plan de jeu de Liverpool ou quoi que ce soit, mais sur les forces qu'on a vues, ligne par ligne, c'est vrai que les profils se rapprochent un petit peu de ce qu'a fait l'équipe de Klopp et de ce que présentait l'équipe de Klopp.
Ouais, même si je pense quand même que le profil d'Herrera est un peu déformé par son passage à Manchester, parce que sa dernière saison à Bilbao, il claque 5 buts, 5 passes décisives, et c'est un joueur qui techniquement est quand même capable d'être très propre, c'est-à-dire que c'est pas Idrissa Gueye, c'est sous pression, il résiste bien, il est capable de s'orienter sur la prise de balle, de recevoir le ballon entre les lignes, il est très juste dans son jeu de passe. Paredes, est moins mobile mais propre dans la passe vers l'avant, tu vois. Je pense qu'à Liverpool, dans les premières versions, quand c'était Henderson, Milner, Wijnaldum par exemple, c'était limite plus athlétique que ce PSG là, tu vois, d'autant encore plus athlétique et peut-être moins fort vraiment dans la passe verticale que ne peuvent le être Paredes ou Herrera. Par contre, pour attaquer la profondeur, c'était plus fort. C'est-à-dire que Wijnaldum pouvait attaquer la profondeur. Henderson aimait bien le faire quand il jouait au poste de relayeur. Il est redevenu un peu ces derniers temps. Milner était un joueur qui avant était ailier. Donc c'était peut-être plus fort dans ce domaine-là. Mais voilà, il n'y a pas non plus. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas faire passer Herrera et Paredes, comme tu le disais, Christophe, pour ce qu'on voyait au début d'Herrera quand il est arrivé au PSG, pour Toussaint et compagnie. Mais il était aussi pas du tout en forme athlétiquement. Parce qu'il faut se rappeler aussi de leur début de carrière et à quel profil ils se sont révélés. Paredes à Empoli, c'était du Verratti. Et Herrera à Bilbao, c'était un meneur de jeu. Donc ça, faut s'en rappeler aussi.
Ouais, non, mais il faut s'en rappeler. Mais aujourd'hui, les qualités premières qu'on voit quand ils sont sur le terrain, ce n'est pas forcément ces qualités-là.
Mais elles sont là si besoin. Elles sont là si besoin. Tu vois, si tu es pressé et tout et que tu es un peu en difficulté, qu'à un moment, il faut jouer vers l'avant, c'est quand même pas trop mal. Tu vois, t'as certes cette qualité-là, mais tu n'as pas forcément les limites d'autres joueurs qui ne vont avoir que cet aspect-là. J'en ai pas tout de suite en tête là, des vrais, vrais, vrais coureurs. Je sais pas, ce serait peut-être un Kanté en tout début de carrière, et encore, techniquement, c'était vraiment déjà fort. Mais des vrais coureurs à la Casemiro ou Toussard, par exemple, qui techniquement sont en difficulté dès que la pression arrive, je pense que le PSG n'a pas un joueur aussi faible, en fait, sous pression.
Par contre, Raphaël, juste, je me pose une question, ce n'est pas nécessairement pour te démentir, mais je me pose la question de savoir si Herrera, alors que j'aime beaucoup en plus, hein, mais voilà, le Herrera meneur de Bilbao, c'est même pas plus ancien que le Wijnaldum milieu offensif aux Pays-Bas.
Non, si, sans doute. Parce que,
c'est 2014, il a 25 ans.
Ouais,
c'est
ouais.
Aussi de comprendre dans la mesure où, tu vois, le Sergio Rico qui gagne 2-3, dont une comme titulaire, c'est beaucoup plus récent que ça. Et pourtant, Sergio Rico, là, tu l'imagines pas. Le futur de l'équipe d'Espagne au poste de gardien avec un peu de réa comme ce qu'il était présenté il y a quelques années. Donc tu peux aussi comprendre que quand l'échantillon récent est tellement important, et bon, toutes les années à Manchester City, il a pas fait que courir, mais c'est vrai qu'à un moment, ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle un peu créatif, qu'on peut se demander finalement si c'était encore ce joueur-là, surtout sur ce qu'on avait vu sur Paris, qui était un peu dans la lignée justement de ce qu'il faisait sur les saisons précédentes.
Après, je vais te proposer un contre-argument qui va te plaire parce que je te connais bien. La première saison qu'il fait avec Van Gaal, il fait une très bonne saison, 6 buts, 4 passes décisives en 19 matchs titulaires, en 1800 minutes seulement. Derrière, par contre, il enchaîne des saisons mourignesques. Donc, voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs dans la deuxième partie des années 2010 qui, avec Mourinho, ont exhibé leur qualité technique.
vois, donc, en plus, lui faisait du marquage individuel souvent. Et sur les gros matchs, alors il y a eu du Twan Zembe aussi qui a fait du marquage individuel sur les, le meilleur créateur adverse. Mais c'est vrai qu'en plus, tu enfermes un peu ton joueur dans un rôle qui, un, est assez rétrograde. Enfin, ça fait très longtemps que quasiment plus personne ne fait du marquage individuel. Et en plus, demander ça à un joueur qui est assez technique, tu peux avoir une forme de perte de confiance et le mettre dans un rôle qui n'est pas nécessairement le sien. Mais je trouve quand même que, tu vois, c'est pas non plus Kroos, Modric, Casemiro où t'avais un énorme point faible coureur techniquement et deux joueurs qui étaient des meneurs replacés. Là, même si Paredes et Herrera ont des vraies qualités techniques, je trouve quand même que la comparaison de Florent, en tout cas sur l'idée générale, après tu peux ajuster à la marche sur le curseur sur le niveau technique des joueurs, je trouve que c'est quand même relativement valable, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi et je pense que Florent parlait de Liverpool, je pense que Paris en a d'autant plus besoin que Neymar, Mbappé et Di Maria ne sont pas les mêmes garanties en termes de volume défensif que Firmino, Sada et Mané, pardon, je mélangeais les noms. Surtout Firmino et Mané qui ne pressent plus que Salah, qui restent parfois un peu plus haut pour contre-attaquer. Donc je rejoins l'avis, mais voilà, c'est pour pas non plus qu'on derrière on nous dise « Ah, vous avez dit que ces joueurs-là étaient nuls techniquement alors qu'ils savent faire ça ». On le sait très bien, je veux dire, l'année Bilbao avec Bielsa, et quand c'est Herrera, Iturraspe, Ravi Martinez, De Marcos, Mounien qui jouent, sur le plan technique, c'était assez dingue.
Ouais, non, mais quand je dis ça pour rejoindre ce que tu ajoutes pour un petit peu sauver Herrera et Paredes en disant que ce sont pas que des coureurs, quand je fais la comparaison avec Liverpool, je la fais surtout pour dire que ce qu'on voit comme qualité première chez ces joueurs-là dans ce PSG-là, c'est en effet plus leur capacité à apporter de l'énergie sur ce match-là, en tout cas sur cette demi-finale, à presser, à courir. Contre la Talanta, c'était plus aussi un rôle comme ça, où ils étaient, que leur qualité technique pour tenir la balle, parce que pour ça, il y a Neymar qui s'en occupe, il y a Di Maria qui s'en occupe, et voilà. Donc c'est juste pour leur rôle principal, en fait, dans le système parisien.
Mais de toute façon, ils devront le refaire contre le Bayern si c'est le Bayern, donc je suis ce que tu veux dire.
Et puis de toute façon, généralement, quand tu n'es pas ultra technique à l'échelle des demi-finales Ligue des Champions, tu es quand même 10 fois plus technique que quasiment tous les milieux de terrain que tu rencontres en championnat semaine après semaine.
Oui, bah, déjà plus technique que les milieux de terrain que tu as affronté ce soir, par exemple.
Par exemple. C'est vrai que là-dessus, Leipzig, c'était assez compliqué. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce match?
Rien.
Des questions à droite, à gauche. Question de Guillaume Héritier, qui en fait, ça va permettre de prendre un petit peu de hauteur. Là, vu qu'on a encore quelques minutes, un petit peu de temps avant de passer au pari. Sur un modèle classique aller-retour, le PSG aurait-il eu autant de facilité? Ce qui me donne envie d'élargir, parce que je pense que sur ce match-là, on répondra oui. À quel point est-ce que vous pensez que le scénario du match unique, cette formule assez, assez spéciale qui logiquement doit rester une anomalie à l'échelle de la compétition, est-ce que vous pensez vraiment que ça a changé énormément de choses ou alors que finalement on aurait eu les mêmes équipes, peut-être dans des scénarios différents, mais voilà, que les qualifiés seraient les mêmes? Alors, qu'est-ce que ça t'inspire?
Peut-être que sur un aller-retour, Nagelsmann aurait abordé la rencontre différemment et peut-être que Leipzig aurait plus fait du Leipzig sur le match aller que ce qu'on a vu ce soir. C'est une supposition, hein, mais sur 180 minutes, je me dis qu'on aurait peut-être eu droit à ça. Je pense que Paris aurait, pour peu que le match aller se soit joué à Leipzig, aurait opposé le même plan. Mais je pense que Leipzig aurait été plus entreprenant, ne serait-ce que parce qu'ils auraient été à domicile, il y aurait eu leur public, le contexte aurait été très différent sur l'environnement autour du match. Donc je pense que Leipzig aurait plus ressemblé à Leipzig sur une confrontation aller-retour. Après, je pense que Paris aurait fait la même chose.
Et Raphaël, sur les autres matchs, si t'as un peu en tête, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait de se dire que City, finalement, c'était un petit peu foiré à l'aller contre Tottenham l'an dernier. Et que ça se joue à 3 mm pour que le retour qui était bien mieux maîtrisé corrige un peu ça. Et que si tu as deux matchs City-Lyon, tu as quand même plus de chances pour City de corriger le tir. Sur les autres, j'ai pas l'impression que ça fasse une différence énorme. surtout sur Atalanta-PSG où finalement, bon, moi j'étais quand même assez persuadé avant le match, je l'avoue, que l'Atalanta allait passer. Autant là, j'étais sûr que le PSG allait foutre une leçon à Leipzig, autant j'imaginais pas Neymar capable de tout seul limite qualifier Paris et sortir Paris du pressing de l'Atalanta. Je suis pas sûr que sur deux matchs ça aurait changé globalement les choses quand t'as un Neymar à ce niveau-là. Et globalement, je vois pas vraiment de résultat où tu te dis ah mince, vraiment s'il y avait eu un retour, ça aurait tout changé. À la fois l'approche de l'équipe. L'équipe battue au match aller et à la fois un rapport de force totalement différent en fonction des adaptations.
L'aller-retour Leipzig-Atlético peut-être.
Ouais, j'allais dire Atlético, tu vois, t'imagines que le Leipzig 2-1 est à domicile, le Atlético qui gagne 1-0 au retour, tu vois, ça me paraît pas impensable. C'est des trucs similaires à ce qu'ils ont déjà fait. Ça me semble, ouais, le match qui peut tourner avec le City-Lyon, en effet. Même si bon, Guardiola sur les allers-retours depuis quelques années, c'est parfois compliqué parce qu'il y a toujours un match qui rate tellement qu'après sur le retour c'est compliqué de rattraper. Mais sur le coup, ouais, je pense que le Leipzig-Atlético aurait pu tourner parce que Simeone qui se rend compte qu'il a peut-être un peu déconné sur la première rencontre à être aussi prudent et à pas aller chercher un peu plus haut, aurait peut-être pu changer certaines choses, ou au moins certains joueurs, faire jouer Thomas, faire jouer d'autres, faire jouer Félix d'entrée. Sur un match retour ou à domicile avec les supporters, tu as aussi cette variable-là. Tu peux gagner 1-0 ou 2-0 contre ce Leipzig-là. Je pense que c'est le seul qui aurait pu tourner. Je suis en train de regarder les autres matchs, mais il n'y en a pas eu tellement. Mais sinon, bon, on a vu les écarts qui étaient assez immenses sinon entre les équipes sur le plan collectif. Donc celui-là et City-Lyon, mais bon, le Barça-Bayern, je pense que ça, le match n'aurait même pas eu lieu. Il y aurait eu un forfait général. Bartomeu aurait été décapité devant le Camp Nou. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais il n'y aurait pas eu de deuxième match.
Alors, on a pas mal de questions sur les projections, sur la finale. Alors, la plupart des gens mentionnent le Bayern. Je pense que c'est mieux d'être sûr que ça soit le Bayern en finale. Et je pense qu'on en parlera demain, parce qu'on est chez Chaud des Crains l'eau froide. On s'est déjà trompé une fois en annonçant la qualification de City, en se projetant là-dessus. Donc on verra ça, sachant que si Lyon passe... Il suffira de reparler de ce qu'on a vu sur la finale de coupe entre les deux équipes et d'espérer qu'il y aura un peu plus de choses parce que des nouveaux joueurs côté parisien. Mais dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, on a quand même quelques questions là-dessus, notamment une de Treble99, Jimmy Sweepy. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'Icardi pourrait retrouver une place de titulaire? Et là aussi, j'ai élargi la question pour savoir quels joueurs parisiens peuvent rentrer dans le 11. Alors, on a évoqué Verratti tout à l'heure. A priori, la question sera uniquement physique et son ressenti à lui. Est-ce que vous voyez quelqu'un capable de challenger Kerrer? Est-ce que vous voyez un scénario où Icardi peut être utile? Ou alors, bon, bah, c'est Paris, et puis voilà, en avant Guingamp, on verra à la 60e si jamais il y a besoin de changer des choses, Florent.
Ben, je crois que pour Kerrer, il n'y a pas vraiment de choix.
Ça peut être Herrera latéral droit, mais ça veut dire que tu pars avec Verratti Paredes en relayeur.
J'allais dire, ça peut être Herrera ou ça peut être Marquinhos, parce ouais. qu'il l'a déjà fait, mais ça remonte énormément et je pense pas que Tuchel bouleverse autant les repères de Marquinhos qui en a trouvé au milieu ou fout Herrera latéral, sachant que Herrera a certes eu du mal techniquement, certes sera peut-être un point faible face au pressing du Bayern, mais par rapport à ce qu'il a montré tout au long de la saison, il y a rien sur ce match qui dit bon ben je le sors pour mettre quelqu'un d'autre, surtout si c'est pas un concurrent direct et un vrai remplaçant à son poste, quoi. Donc, je vois pas forcément où tu peux faire des changements, à l'exception évidemment du gardien de but et de Verratti au milieu s'il est apte. Et Icardi devant, non, absolument pas. Enfin, je vois même pas dans quel monde Icardi, qui n'a pas joué sur cette demi-finale, n'est même pas entré en jeu, peut débuter face au Bayern, sauf une catastrophe et une blessure devant. Mais j'imagine que les Parisiens vont être très 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 prudents sur ce point-là d'ici dimanche.
Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, mais sur Icardi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Flo, c'est une de ses marottes, parce que ça fait quand même des semaines qu'il réfléchit à comment virer Icardi du 11, quitte à mettre Choupeau devant.
Donc, et qui se moque du prix d'achat.
Là, il est consacré, Flo, c'est son heure de gloire. Il nous a presque proposé Alexandre Mendy à la place d'Icardi pour te dire à quel point il était concentré là-dessus. Non, mais c'est alors qu'il y a une fête des motards à côté de chez moi. Non, mais c'est assez logique de le voir sortir de là. Et de toute façon, Paris, depuis que Neymar et Mbappé sont là, ont toujours fait d'excellents matchs quand c'était très mobile devant et notamment quand Di Maria avait un rôle très avancé. Donc c'est pas étonnant de les voir non plus jouer comme ça. Et finalement, quand tu vois comment t'avais du mal à intégrer Cavani, c'est pas étonnant d'avoir du mal à intégrer Icardi sur ces matchs-là. Ça veut pas dire qu'il devient inutile sur toute une saison et en Ligue 1, il va continuer à claquer des buts. D'ailleurs, je crois que tu l'as chopé dans ta prochaine équipe MPG, Christophe.
Oui, car j'ai mis 200 sur Mbappé et qu'il est parti à 201. Donc, alors que Neymar a eu zéro offre au premier tour, tout comme Ben Yedder. Ouais. Donc, je me suis rebattu sur Icardi, qui sera avec Jonathan David, et Casey Ruiz et Girbich.
Et d'ailleurs, dans ces cas-là, j'ai souvent la stratégie de mettre 51 sur Neymar, 51 sur Mbappé, 51 sur Ben Yedder, en me disant qu'il y en a bien un qui passera, parce que tout le monde se dira « non, je vais pas y aller, il va coûter trop cher ».
Ça m'est déjà arrivé et je n'avais eu personne.
Voilà, ça marche jamais non plus, mais c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui met de l'argent. Mais en effet, ça, j'avais essayé. Mais voilà, donc sur Icardi, non, sur ces matchs-là, ce contexte-là, le faire démarrer, en tout cas, ça se justifie pas du tout, surtout quand tu as vu les deux dernières performances.
Ça marche, messieurs. Juste dernière question pour conclure. Hugo M. Rossi qui me demande si je possédais un blog. Eh bien, j'avais un Skyblog, effectivement, mais il n'était pas personnel. Il s'appelait le Gargantublog, et c'était un blog à la gloire du livre Gargantua. Je venais avec un ami, c'est une vraie histoire. Alors, il n'y avait pas énormément de pages, mais voilà, on citait quelques extraits du livre.
Et vous avez quelle page ?
Bah, c'était quand on l'a étudié, c'était pour le bac français, en première.
Ah ouais, ah, t'avais un blog en première. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, à l'époque où c'était en première, il n'y avait pas encore de...
Je sais pas c'était si... 2006.
Bah, Facebook devait exister quand même, ça devait être les tout débuts.
Non, non, non. Moi, j'ai créé mon compte Facebook, j'étais en deuxième année de fac, pour te dire. Donc,
Oui, mais t'as pas créé ton compte Facebook le jour où Facebook a ouvert.
Oui, mais oui, non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, c'était pas encore suffisamment mainstream pour que je sois totalement en retard. Après, c'est vrai que j'ai eu un téléphone portable qu'en seconde, hein, donc, en fin de seconde. Donc, effectivement, j'étais pas le premier non plus. Ouais. Mais dont les Skyblog existaient, et puis donc j'avais le Gargantublog, et ce qui fait que je suis arrivé au bac français où je suis tombé sur Gargantua dans une forme olympique, puisque je connaissais des pages entières du livre par cœur.
Et t'as eu combien alors ?
Alors, c'est une histoire très triste de ma vie, où tout le monde, je pense, doit penser que je suis de mauvaise foi quand je raconte cette anecdote, mais en même temps, personne ne rebondit parce que tout le monde s'en fout. Mais je crois que j'ai eu 12 ou 13. Et je suis persuadé que j'ai été saqué dans la note parce que la personne a pris mon assurance pour de la condescendance sur le fait que je connaissais absolument tout du livre et tout des questions qu'elle me posait ou autre. Et certaines fois, j'ai un peu corrigé ce qu'elle me disait pour dire non, mais c'est pas exactement ça qu'il a voulu dire, etc. On le voit dans la page en vieux français, tout ça. Et je pense que j'étais persuadé d'avoir 19 ou 20. Et je pense que voilà, je me suis jamais remis en question là-dessus. Je pense qu'elle a voulu me faire payer mon arrogance.
Et t'as eu combien du coup ?
Bah voilà, 12 ou 13. Je sais plus, quelque chose comme ça. Peut-être 13.
C'est assez décevant sur un livre que tu connais par cœur.
Bah non, mais je m'en suis toujours parmi. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vois, je fais toute une argumentation alors que j'ai eu 16 au bac de maths où j'avais eu 3 de moyenne. Donc, no comment. C'est tout pour le Gargantublog qui, malheureusement, n'existe plus. Ça sert à rien de chercher.
Ouais,
il est disparu en mer. Et on passe au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris. Qu'as-tu fait, Florent, sur cette salve de paris sur tes deux matchs qui étaient concernés, celui de ce soir-là, je crois, la première demi-finale de Ligue Europa ?
Eh bien, 0 sur 2 pour changer. 0 sur 2, et tu le sais très bien en plus, je pense.
Alors, non, pas sûr. Je savais que tu étais à 0 sur 1, j'avais oublié le premier.
Dans la voix de Flo, il y avait petit connard derrière.
C'était Lukaku, premier buteur, et finalement, il a été dernier buteur de la large victoire de l'Inter face au Shakhtar, et puisqu'il a mis les deux derniers, c'est Lautaro qui a mis le premier. Et l'autre pari, c'était Mbappé buteur ce soir, et malheureusement, il a pas voulu. Alors l'arbitre a pas voulu sur le premier, et ensuite lui n'a pas voulu marquer, il a préféré faire des passements de jambes. Donc du coup 0 sur 2.
Oui. Joli, je conseille à tout le monde de revoir le match de Mbappé et vous concentrer sur ses passements de jambes. Pas souvenir d'avoir vu quelqu'un faire autant de passements de jambes, limite, j'ai l'impression que c'était, je sais pas, une thématique, un truc qui s'est dit, tiens, il faut que je fasse ça pour obtenir des fautes. Enfin, c'était très bizarre. J'ai l'impression que c'était des tocs. Moi, j'ai fait 2 sur 2, voilà, sur mes paris.
Ah, le ton. Et après, oui, alors je pense qu'elle a pris ça pour de l'arrogance ou de la condescendance. Oui, Christophe.
Je sais pas si c'était pareil, le passage de l'oral.
Je pense que t'as résolu l'énigme.
Totalement, non, mais je pense et je crains. Donc, une cote à, je crois, à 4,80 et une à 2,20. Le plus de 4,5 buts sur l'Inter et la victoire de Paris avec plus de 2,5 buts dans le match.
Notons quand même.
L'écart se creuse.
Notons quand même que sur ton pari Inter-Shakhtar qui passe, ce n'était absolument pas le scénario que tu avais envisagé quand même.
Pas complètement, effectivement. Mais oui, non, c'est...
Ça compte quand même, ça compte quand même.
Ouais, ça compte quand même. Enfin, c'était pas totalement opposé, mais il y avait le côté, le Shakhtar attaque tout le temps, etc. Mais c'est vrai que j'imaginais plus hein, 4-2 dans un sens ou dans l'autre qu'un 5-0. Mais le fait que le Shakhtar ne s'arrête jamais d'attaquer pouvait me servir, mais je pensais pas que ça serait passer de 3-0 à 5-0. Je pensais que ça serait de passer de 3-0 à 4-1. Voilà.
Shakhtar, on a regardé le match avec Florent, meilleure équipe de futsal sur herbe du monde. Les mecs, ils font 14 passes autour de la surface. Ils le faisaient déjà avec Paulo Fonseca, mais il y a quand même un peu plus d'efficacité. Là, il y avait un nombre de joueurs qui étaient autour de la surface sans jamais la pénétrer. T'avais l'impression que c'était là aussi un thème de séance. C'était assez particulier. Petite tendresse pour le Marcos Antonio qu'on a vu avec Flo, qui est plutôt pas mal. Qui est une espèce de milieu offensif longiligne, très, très créatif et avec une très belle gestuelle. Voilà, bon, de toute façon, là, en général, le Shakhtar, quand il joue en Coupe d'Europe, il met tous les Brésiliens qui ne peuvent pas aligner ensemble en championnat. Parce qu'il y a une limite, je crois, de 6 ou 7 Ukrainiens minimum. En tout cas, un truc comme ça, je crois, dans le championnat ukrainien. En tout cas, à l'époque où je jouais à Football Manager avec les clubs ukrainiens, c'était ça. Ça a peut-être changé. Et là, du coup, je crois qu'il y avait 2 ou 3 défenseurs ukrainiens et le reste de l'équipe, c'était que des Brésiliens. C'était assez agréable à voir, mais ils ont quand même pris 5-0.
Donc ouais, équipe de futsal, c'est uniquement négatif, c'est uniquement positif ou c'est totalement neutre
C'est à la fois positif et négatif, ça, parce que techniquement, c'est très très fort. Je pense que c'est une des meilleures équipes d'Europe sur le plan technique. Les mecs, ils ne ratent pas une passe, ils ont des prises de balles exceptionnelles. Mais par contre, il n'y a aucune attaque de la profondeur. Alors que pourtant, dans le futsal, normalement, tu es tout le temps en mouvement, tu te déplaces, mais c'est vrai que tu n'as pas forcément de longues courses. Et là, du coup, bah, ils ont tourné autour de la surface de l'Inter sans jamais y rentrer. Je crois que ça finit à 65 ou 66% de possession pour le Shakhtar. Mais par contre, dès qu'ils perdaient le ballon, bah, c'était des grosses vagues interistes qui arrivaient. Donc voilà, c'est plus pour caractériser le style de jeu de l'équipe que pour critiquer ou féliciter d'ailleurs, que je parle du style de futsal.
Ici, les gens veulent savoir quel peut être l'apport du futsal sur la créativité des joueurs offensifs.
Il y en a
notamment
plein,
hein. Chez les Brésiliens qui sont tous à peu près formés dans le futsal. Je vous conseille le livre L'Odyssée du 10, où en plus j'ai écrit cette partie, donc j'en suis très fier, sur la formation et le développement et le fait de repérer la créativité et de l'encourager chez le jeune joueur.
T'es sur un nombre de flex dans le podcast, là, Christophe, entre ton blog Gargantua, ton bac où t'aurais dû avoir 19, tes paris réussis et l'Odyssée du 10. C'est marchand de poissons depuis quelques minutes.
Absolument. Mais tu vois, j'ai beaucoup insisté sur le jour du avoir 19. J'ai pas trop insisté sur le fait que j'ai scandaleusement tapé 12 points au-dessus de ma moyenne annuelle en maths. Mais c'est ça.
Si, tu l'as dit.
Non, mais je pense, mais j'argumente toujours beaucoup plus sur ce qui m'arrange. Que sur mes escroqueries qui me profitent. Enfin bref, mais bon, j'ai une légende à entretenir. Mais là, c'était même pas du flex, c'était de la retape pour essayer d'attirer du lecteur tant qu'on est top 4 dans les podcasts France en ce moment. Donc, enfin, en sport, pas en tout truc, mais voilà, c'est plutôt bien. T'es Paris, Raphaël. Donc là, on aura 2 matchs. Enfin non, 3 en fait, parce qu'il y aura une journée de championnat, mais vous n'avez pas pris le même match de Ligue 1. Par contre, vous avez tous les deux pris la finale de Ligue Europa. Toi, ton Paris, Séville, Inter, cote assez faible, assez modeste pour faire ce choix.
Ouais, bah, je suis pas à ton niveau, Christophe. Enfin, je suis pas assez fort pour tenter des cotes à 4,80. J'en ai tenté quelques-unes un peu plus élevées récemment, notamment une à 3,8 sur Barça-Bayern, une à 9 sur Atlético Leipzig. Il n'y en a aucune des deux qui est passée, donc je me calme un peu, je me cadre. Je pars sur un but de Lukaku en finale contre Séville-Inter. J'étais pas vraiment inspiré sur le scénario de la rencontre et le futur vainqueur. Parce que alors l'Inter me paraît très fort, ils ont fait un bon match contre le Shakhtar, mais Séville, la Ligue Europa, c'est une grande histoire, et ils ont été pas mal du tout non plus contre Manchester, donc je préfère pas prononcer là-dessus, mais Lukaku est dans une telle forme. Alors j'ai pas compté les buts qu'il a marqués là sur les phases d'Europa League, entre les tours d'Europa League depuis quelques semaines et depuis que ça a repris, mais j'ai l'impression qu'il est décisif quasiment à chaque match. Notre ami Romelu Lukaku, et en tout cas il a fait la meilleure saison de sa carrière. Son but est à 2,40. Contre Séville. Alors, il va avoir du répondant avec Diego Carlos et Koundé, mais vu que plus personne, en Europe n'arrive à lui répondre physiquement, je pense qu'il est en capacité de marquer un but sur cette rencontre. J'espère que c'est pas Lautaro qui va en claquer deux, comme ça a gâché le pari de Flo, parce que c'est lui qui a marqué en premier. Moi, je ne me dis pas en premier, je dis qu'il va marquer au moins un but, et c'est à 2,40, et je vais vérifier dans le même temps la régularité des buts de Lukaku ces derniers temps. Ouais, doublé contre Shakhtar, but contre Leverkusen, but contre Retafe. Donc voilà, très important dans le parcours réussi de l'Inter en Coupe d'Europe.
Merci Raphaël. On passe à Florent, qui a un pari encore un peu plus modeste, mais qui, là, je pense, a quand même de bonnes chances de passer.
Ouais, bah, qui rejoint un petit peu le pari de Raphaël sur le but de Lukaku, c'est le fait de dire que l'Inter va marquer deux buts dans ce match, enfin plus de 1,5 buts, donc 2, 3, 4, etc. etc. C'est coté à 2,12. Pourquoi ce pari ? Parce que je pense que Séville a quand même... Alors, mérite largement, à mon sens, sa victoire face à Manchester United, parce que c'est une équipe qui a su être beaucoup plus constante que United, qui a eu des temps forts, où ils ont eu des occasions, mais en fait, quand United ne joue pas à l'énergie et sur du pressing, lorsque ses attaquants arrêtent de courir, United n'a plus grand-chose à proposer défensivement, et ils sont finalement fait surprendre par Séville. Mais c'est vrai que United, quand ils sont arrivés près de la surface, ils ont eu pas mal de situations. Il y a un gros temps fort en début de deuxième période où le portier sévillan qui s'appelle Bono, je sais même plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est l'un ou l'autre.
J'ai l'impression que son surnom c'est Bono, mais qu'en fait il s'appelle Bou, je crois. J'ai jamais trop compris la dynamique autour de ce personnage.
Et ben, un personnage qui a été très bon puisqu'il a maintenu Séville dans le match pendant ce gros temps fort en sortant 3-4 arrêts quasiment coup sur coup, parfois suppléé par ses défenseurs. Mais je me dis que face à l'Inter, face à Lukaku, comme le disait Raphaël, qui est très très chaud sur ce Final 8 de Ligue Europa, et face à Lautaro qui a ressorti la tête de l'eau face au Shakhtar pour marquer, je pense qu'il va s'incliner au moins deux fois. Donc le pari, et malgré Diego Carlos, malgré Koundé, d'ailleurs je dois avouer que Koundé rencontre un petit peu son boss final, je pense, avec Lukaku, sur cette première saison à Séville. En guise de dernier match, ça va être un sacré chantier de devoir faire face à Lukaku, surtout s'il veut l'attaquer au poste bas. Là, les choses risquent de se compliquer, mais Koundé aime beaucoup le basket aussi, donc il s'en sortira peut-être. Néanmoins, je pense pas que ça suffise et que l'Inter mette au moins deux buts. Donc voilà, l'Inter a plus de 1,5 buts dans ce match. C'est coté à 2,12.
Puis pour le coup, on a vu tous les trois le match de Séville, c'est quand même très bien payé qui passe. Ouais. Et déjà, la variable Lukaku est même plus qu'une variable. C'est vraiment le point, je pense, principal de cette finale. Mais en plus, sans ce bon vieux Bounou Bono, je pense que Manchester est en finale parce que là, il y avait quand même, un différentiel de niveau sur pas mal de joueurs. Je pense que tu risques d'avoir le même avec en plus une superstar en attaque pour marquer les buts. Donc effectivement, j'ai peur que Séville prenne un petit 3-1 ou quelque chose comme ça.
Et collectivement, en plus, l'Inter est bien supérieur à Manchester United.
Oui, Inter sait quoi faire sur à peu près toutes les phases de jeu, alors que Manchester dépend beaucoup des inspirations des joueurs. Et tu nous parleras de tout ça dans un autre podcast, Florent, puisque je sais que ça te tient à cœur, tout ce qui est bloc médian et intention des joueurs, etc. Pour finir, votre dernier pari chacun, sur Lille-Rennes, Raphaël, un pari un petit peu plus ambitieux que le premier, on t'écoute.
Oui, sur Lille-Rennes, bah je m'appuie sur les derniers résultats de Lille et sur l'entrée fracassante de Jonathan David, qui a déjà marqué un but. Lille-Rennes qui va être du coup un des premiers chocs de Ligue 1, puisque c'est quand même deux équipes qui déjà vont jouer l'Europe, alors une la Ligue des Champions, l'autre la Ligue Europa, et qui prétendent au podium cette saison à nouveau en Ligue 1. Je pars sur un but de Jonathan David, c'est coté à 3,20. C'est une cote plus élevée que le but de Bourak Yılmaz, qui je crois lui a fait des débuts un peu moins fracassants.
Un peu plus massif, un peu moins vif.
Un peu plus fracassé peut-être comme début, du coup.
Ouais.
Peut-être qu'il n'est pas encore en forme et qu'il faut un petit peu faire un petit régime. Mais Jonathan David, bon, qu'on commence à un petit peu connaître parce que ça fait quand même quelques temps et au moins une saison que ça en parle très bien en Europe. Déjà avant, il y avait une petite hype sur lui et Davis, les deux talents canadiens. Il fait une très grosse saison en Belgique, peut-être meilleure que ce qu'avait fait Osimhen. Et puis les vidéos tournent de plus en plus, donc on voit le profil très complet, qui peut jouer dos au but, qui peut aussi faire jouer autour de lui, qui peut attaquer la profondeur, enfin attaquant qui a l'air ultra moderne et peut-être d'ailleurs plus joueur que ne l'était Osimhen. Donc je pars sur un but de Jonathan David à 3,20 pour Lille contre Rennes. Rennes qui va avoir une prépa un peu différente parce qu'ils vont surtout aussi préparer la Ligue des Champions. Je pense que Lille va chercher à démarrer peut-être un peu plus fort la saison. Donc voilà.
Florent, toi alors tu repars pas sur un pari all-in, mais un pari quand même assez ambitieux sur ton club de cœur, le club de ta ville, Bordeaux.
Oui, Bordeaux-Nantes, match qui a remplacé du coup la rencontre entre Marseille et Saint-Étienne, et donc qui aura lieu vendredi à 19h. Ouais, c'est simplement en fait pour partir sur les buteurs côté bordelais, parce que je me rends compte que les cotes sont quand même assez élevées, et d'ailleurs les cotes sont aussi élevées côté nantais, c'est-à-dire sur la cote, quel joueur marquera au moins un but, le premier buteur bordelais est coté à 4, et le premier buteur nantais est coté à 4 aussi. Donc, il n'y a pas forcément de différence entre domicile et extérieur d'ailleurs. En même temps, il n'y aura que 5000 personnes maximum dans les tribunes. Mais du coup, bah, je vais partir sur un but d'un Bordelais quand même. Je vais la jouer victoire à domicile, même si ce sera le tout premier match de Jean-Louis Gasset, qui n'a même pas pu faire de match amical avant de prendre l'équipe, avant le début du championnat, pardon. Donc, je vais partir sur le but de Depréville, qui est habituellement, enfin, qui est un titulaire assez installé dans l'équipe. J'espère qu'il sera titulaire dans le 4-4-2 qui serait annoncé côté bordelais. Et sa cote pour le but marqué est à 4,40. Donc, voilà, le truc, c'est que le premier est à 4 et ensuite il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui sont entre 4 et 5 côté bordelais. Et côté nantais, c'est un petit peu la même chose. Il y a trois joueurs pardon, qui sont entre 4 et 5 au niveau de la cote. Renaud Aymon, Khalifa Koulibaly et Simon Moses. Moses Simon, pardon. Donc voilà, je pars juste sur Depréville. Parce que aussi, je crois que lors de la préparation, c'était le tireur de pénalty. Bon, en tout cas, il en met un face à Saint-Étienne, il me semble. Et du coup, j'imagine pourquoi pas un pénalty, pourquoi pas c'est lui qui le frappe et pourquoi pas Bordeaux qui marque un but de cette manière-là. Parce que j'ai du mal à imaginer entre une équipe de Bordeaux qui va vivre son premier match avec son nouvel entraîneur et une équipe de Nantes qui, je crois, va se déplacer avec 107 ou 8 joueurs malades du Covid. Alors, on pourra se poser la question pourquoi ce match-là n'est pas reporté alors qu'il y a autant de malades, enfin, qu'il y a encore plus de malades que lors du Marseille-Saint-Etienne. Mais voilà, un buteur côté bordelais de Préville, c'était un des plus en vue la saison dernière et il n'y a pas forcément de raison que ça change.
N'insultons pas l'avenir, hein. Peut-être que quand les gens écouteront ce podcast demain matin en se levant, peut-être que le match sera annulé, hein. Donc on verra. Je ne suis pas sûr. Là, le Covid, ça fait quand même une variable où il suffit qu'il y ait un ou deux malades de plus et peut-être que cette rencontre n'aura jamais lieu, enfin pas tout de suite, et que ce pari n'existera jamais. On verra. Merci messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une petite dédicace à faire à vos proches, un témoignage d'amour envers un joueur, voilà. Je vous laisse conclure. Raphaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, j'ai rien à rajouter. Je suis ravi qu'on continue à faire ces podcasts et j'ai même de la peine de me dire que dans deux épisodes, c'est terminé. Que la saison 6 de Vue du Banc va s'arrêter comme ça, alors qu'on était vraiment lancé. On se sentait un peu dans un contexte Euro ou Coupe du Monde à faire des quotidiennes qui s'enchaînent. Et puis là, c'est comme si ça s'arrêtait en huitième de finale parce qu'on aura fait une quinzaine de jours à peu près.
Florent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, ben je me rends compte que Raphaël est capable d'émotion, c'est déjà une découverte. Mais non, pas grand chose à rajouter. Bah ben oui, il est triste là, il est pareil. Mais bon, on reviendra peut-être.
Plein de gens me disent que je suis pas assez émotif et que je vais être impassible et d'être un robot. Donc, qu'on me le dise une fois de plus, j'ai des émotions. Là, je suis énervé, là. Je suis en colère là.
Une heure du matin, ça aurait été l'heure pour que tu appelles Macha Béranger. Malheureusement, <Et puis pas. rire> mais non, pas grand chose à rajouter. Assez pressé d'être à la demi-finale de ce soir, du coup, de Bayern-Lyon, histoire qu'ensuite on puisse se projeter sur la rencontre de dimanche et essayer de réfléchir au meilleur podcast possible.
Bah ouais, bon, on va réfléchir. On va d'abord faire le montage, puis essayer d'aller se coucher avant 3h du matin pour une fois. Et puis, bon, on se retrouve très vite, dès demain. À bientôt.
Salut.
Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.